Que on parle de la face cachée de l'histoire, alors je ne vous révèle pas les mystères de comment on a empoisonné un tel ou un tel ou une telle ou comment les gens ont été assassinés d'une certaine manière, mais il y a le visible et il y a l'invisible. Il y a ce que l'on voit et ce que l'on constate, on voit les événements de notre société, on voit les événements de l'histoire. Et derrière, eh bien, il y a quelque chose qui se passe. Et ce que l'on ne voit pas. Et ce que l'on ne voit pas est plus important que ce que l'on voit. Ou a des conséquences plus grandes que ce que l'on voit. Souvent, on est trompé par ce que l'on voit. Donc, pour vous dire que il y a derrière les événements, il y a quelque chose qui se passe. Et comment dire la chose? Il y a un plan. Non pas que c'est un plan de Dieu, mais il y a, par exemple, le plan, l'ennemi veut ruiner l'œuvre de Dieu. C'est toujours, il a en vue de ruiner l'œuvre de Dieu. Toujours. C'est quoi que vous fassiez, vous pouvez tourner les choses dans n'importe quel sens, vous verrez qu'il y a toujours cette intention maléfique, mauvaise, de détourner la gloire qui revient à Dieu. De détruire la créature de Dieu. Vous voyez une création magnifique et vous voyez des poubelles à côté. C'est exactement cela. C'est derrière, il y a quelqu'un qui veut le mal et qui fait le mal. Donc, on constate qu'il y a deux puissances. Il y a une puissance bonne, Dieu lui-même, et il y a une puissance mauvaise. C'est la Bible dit même, c'est le Dieu de ce siècle. C'est donc un antagonisme, une lutte, une guerre. Et quand nous sommes chrétiens, quand nous naissons de nouveau, eh bien on passe du camp de l'ennemi de Dieu au camp de Dieu. Et c'est le moyen par lequel nous passons d'un camp à l'autre, c'est le sang du Seigneur Jésus-Christ. C'est Dieu qui nous a rachetés. Il nous a enlevés de ce que nous étions. Et nous place dans une nouvelle position. Et quand nous sommes sauvés, eh bien, Satan est notre ennemi. Et il était avant. Il est l'ennemi de Dieu. Il est l'ennemi de la création de Dieu. Et même si les gens croient, il y a des gens qui pratiquent des religions occultes où le diable a une très grande part. Eh bien, néanmoins, ils ne sont jamais les amis du diable. Le diable reste quand même leur ennemi. Il n'a pas d'amour. Et il n'a pas d'amis. Je me rappelle d'un grand spirite que j'ai pu aider, qui est né de nouveau, qui a été réconcilié avec Dieu, qui était complètement changé une fois qu'il a accepté Jésus-Christ comme son sauveur. Mais c'était un homme qui ne pouvait pas travailler, il était dépressif et il avait des idées de suicide constamment. Et il devait dormir avec des somnifères. Satan n'aime pas ceux qui le servent. Et c'était le plus grand spirite disons, spirite occultiste, guérisseur de la région du Roussillon. Donc les autres lui demandaient des conseils pour savoir ce qu'il devait faire. Mais il le payait cher, très lourdement. Et sa femme vivait dans l'angoisse et dans la peur continuelle. Quand il s'est converti, elle a dit, qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce qui va nous arriver? Elle avait une peur terrible de cet être que son mari servait. Donc ce n'est jamais un ami, jamais. Même ceux qui pratiquent croient qu'ils sont dans les bonnes grâces de Satan, et ce n'est pas vrai. Si vous saviez le nombre de personnes qui sont dans l'occultisme et qui font des dépressions, qui se suicident, qui vivent mal, qui vivent dans le désordre, dans la débauche, dans toutes sortes de choses inimaginables, vous seriez étonné. C'est comme cela. Donc, il y a donc une autre chose, c'est que c'est un combat, mais il y a des règles. Et les règles, Satan ne peut pas les transgresser. Dieu lui a fixé des limites. Il y a toujours une règle, toujours une limite qu'il ne peut pas franchir. Dieu permet jusqu'à un certain point. C'est l'histoire de Job. Job est attaqué par Satan. Satan vient voir Dieu et Dieu lui fixe des limites. Il lui dit, tu ne toucheras pas. tu ne frappes pas, tu ne toucheras pas à sa vie. C'est la limite ultime. Il ne pouvait pas aller au-delà de la. Il pouvait même altérer sa santé. Il pouvait le ruiner. Il pouvait lui faire perdre tout le monde. Il pouvait lui faire perdre ses amis. Il pouvait faire en sorte que ses amis le calomnient. Il pouvait être vraiment même dans une très grande tristesse. Mais il ne pouvait pas toucher à sa vie. Dieu avait dit, tu ne toucheras pas à sa vie. Et il n'a pas pu, il n'a pas fait. Et je peux vous dire qu'il aurait aimé toucher à la vie de Job. Et Dieu ne lui a pas permis. Dans toute l'histoire de l'humanité, depuis Adam et Ève jusqu'à la fin, Satan aura toujours son rôle. Il y a un moment où il va être enchaîné pendant 1000 ans. C'est là, il ne va pas être actif. Mais néanmoins, il n'est rien dit de ses satellites, ses démons. Il est probable qu'eux vont continuer à agir. Mais Satan ne sera plus actif sur la terre. Mais donc, c'est très important de savoir que au-delà de ce que nous voyons, eh bien, il y a quelque chose qui est une action, il y a une œuvre, il y a un combat. C'est quelqu'un parle mal de vous. On vous a dit une méchanceté. Eh bien, ne regardez pas seulement à la personne qui vous a dit la méchanceté. Regardez à celui qui est derrière. Parce qu'il y a toujours derrière. C'est quand, par exemple, vous aviez Pierre, le Seigneur Jésus, a parlé de la crucifixion, qu'il devait mourir et tout cela. Il a dit, à Dieu ne plaise, tu ne vas pas mourir. Et le Seigneur Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. Il n'a pas parlé à Pierre, il n'a pas repris Pierre. Il a parlé à celui qui inspirait Pierre, celui qui était derrière cela. Et malheureusement, il y a eu des conseils et des paroles qui sont dites, des paroles de bon sens, des paroles de sagesse humaine qui ont été dites dans les églises et qui ont ruiné parfois le témoignage de l'église dans certaines régions. C'est parce que l'homme a cru Il ne croyait pas à cette puissance qu'il y a derrière, à cette face cachée de l'histoire. Donc il croyait qu'il prenait des décisions, tout allait bien. On a pris des décisions logiques, normales, sensées, raisonnables. C'est qui avait à redire contre ces décisions-là? Oui, mais elles étaient inspirées par celui qui était derrière. Et si bien que la vie d'une église parfois a été ruinée. Des décisions ont été prises et j'ai connu des églises divisées par une décision qui a été prise. Quelqu'un qui a décidé arbitrairement que les choses se passeraient d'une certaine manière à un certain moment. Eh bien, les chrétiens ont dit non, à partir de là, c'est inacceptable. Je ne peux plus me joindre à une église qui pratique des choses de ce genre. Et il y a donc les gens qui ont pris la décision. Mais il y a celui qui a inspiré la décision, celui qui a inspiré la chose. Si les chrétiens s'étaient réunis pour prier, pour chercher le Seigneur avant de prendre une décision, ils auraient été gardés d'une mauvaise décision. Mais il y a ce verset des Proverbes qui dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. C'est combien de fois nous avons devant nous un chemin tout tracé. Voilà, j'ai décidé que ce serait. Mais rien. On se dit, mais de prier, mais c'est inutile. C'est tellement clair. Oui, c'était clair que c'était l'erreur. Malheureusement, beaucoup de chrétiens sont tombés, et même, je veux dire, d'églises se sont détournés. Quand même des conventions se sont réunies, parce qu'il y a des églises qui sont réunies en convention. Et ces églises se sont réunies, les responsables se sont réunis, ont pris une décision. Je me rappelle, par exemple, c'était les protestants. Il y avait la question, est-ce que les femmes doivent prêcher dans l'église, qui était à l'ordre du jour. Et alors, il y a eu une réunion. Et puis, les pasteurs. Ils se sont dit, c'est tellement logique que non. Donc, ils ne sont pas allés. Ceux qui étaient présents, c'était des diacres. La majorité, c'était des diacres. Et la décision que les femmes prêchent dans l'église protestante a été prise au cours de cette réunion-là. Je l'ai appris par une circulaire qui est dans les archives de l'église, de la faculté d'Aix-en-Provence, protestante d'Aix-en-Provence, qui est contre. Et ils ont dit, la décision a été prise à l'unanimité, à majorité, pas l'unanimité, la majorité, par des personnes incompétentes. Les pasteurs ne se sont pas déplacés. C'est comme cela, ou très minoritairement, ce sont des personnes qui n'avaient pas de connaissances bibliques, qui ne savaient pas et qui ont pris la décision. Et une fois que la décision a été prise, eh bien, on ne pouvait pas revenir en arrière. C'est comme ça. C'est parce que on se dit, bon, c'est tellement gagné d'avance. Oh, inutile de prier, inutile de faire ceci, inutile. Oui, mais l'ennemi est actif. Et sinon, on ne prie pas. Si on ne cherche pas Dieu, si on ne se mobilise pas, eh bien, c'est l'ennemi qui triomphe. C'est malheureusement la pauvreté de l'Église du 21e siècle, sous toutes les latitudes de notre planète, vient de ce que les chrétiens ne prient pas, ne prennent pas conscience qu'il y a une guerre et une lutte, et que la victoire se gagne dans la prière. Dans la recherche de la volonté de Dieu, de la direction de Dieu, de la présence du Saint-Esprit. Et quand tout cela manque, eh bien, nous sommes à la merci d'une mauvaise décision, d'un engagement qui est détruit, qui empêche de grandir même. Le témoignage est ruiné. Et beaucoup d'églises, je me rappelle d'un pasteur qui il m'a dit, tu sais, aux États-Unis, il y a des églises qui ferment. Et qui sont vendus comme lieux touristiques ou toutes sortes de choses. Il m'a dit, ce sont des églises méthodistes, souvent. Et il pleurait quand il me l'a dit. C'est un drame. Parce qu'à un moment donné, les chrétiens, pas cette génération présente, peut-être une ou deux générations dans les années 50, je pense que c'est dans les années 50, eh bien, on s'est réunis tranquillement, fraternellement, on s'est tapé sur l'épaule et on a pris des décisions à droite, à gauche. On a fait une petite prière pour commencer, une petite prière pour terminer, et parce que nous sommes chrétiens quand même, hein, on prie. Il faut bien prier de temps en temps. Et puis, mais les grandes décisions et tout, la sagesse humaine était là. On a pris, on a dit, on va entreprendre ça, on va faire ceci comme ça et comme ça et comme ça. Et puis, finalement, eh bien. Deux générations plus tard, les églises disparaissent. Parce que les chrétiens n'ont pas pris conscience qu'il y avait un combat, qu'il fallait vraiment combattre, qu'il fallait vraiment lutter. Et que la défection d'un seul, eh bien, est lourde de conséquences pour l'ensemble. Il faut être engagé et il faut être conscient que notre ennemi ne dort pas et qu'il faut le combattre et qu'il faut lutter et qu'il faut gagner des victoires. Et ça, c'est quand une église prend conscience de cela, eh bien, elle a gagné. Ou elle est en marche pour gagner. Mais dès qu'une église commence à se reposer, ils se disent, mais nous avons la bonne doctrine, nous avons de bons pasteurs, nous avons un bon enseignement, nous avons des instituts bibliques, nous avons une bonne organisation. On a des personnes compétentes dans l'Église qui sont à toutes les charges de l'Église. Tout va bien. Que peut-il nous arriver? C'est là que commence la catastrophe. Quand on croit en soi-même, quand l'on est conscient que l'on va y arriver, et on n'a plus conscience de notre dépendance de Dieu, de notre besoin de Dieu et de sa présence, que c'est une nécessité absolue, incontournable, que nous ne pouvons rien faire sans lui. Mais on regarde à l'homme, on regarde à soi-même, à nos capacités, et on se dit, ben, tout va bien. Et à ce moment-là, c'est la ruine. Parce que on n'a pas pris conscience de la réalité, d'une réalité, c'est qu'il y a un ennemi derrière, et qui peut influencer nos décisions. Et que même cette tiédeur, ce manque de conscience de Dieu, de la présence de Dieu, de recherche de la présence de Dieu, est inspiré par lui. C'était cette pensée confortable que tout va bien. Tout va bien. C'est quand les chrétiens sont persécutés dans des périodes d'affliction, eh bien, ils ont conscience de leur petitesse et de leur faiblesse. Alors ils crient à Dieu. Mais dans les moments faciles où tout va bien, eh bien, ils ont tendance à se reposer sur eux-mêmes et se dire, mais si on prend des décisions intelligentes, si on est trois ou quatre à bien prendre des décisions, si on a bien fait les choix, eh bien, tout ira bien. Non, tout n'ira pas bien, tout ira mal. Parce qu'il y a un esprit malfaisant qui essaye de détruire l'œuvre de Dieu, constamment. Donc c'est... Si on ne donne pas cette face cachée de l'histoire la dimension qu'elle mérite, eh bien, nous ne travaillons pas pour la bonne cause. Il y a des chrétiens qui parlent de Satan et qui en parlent négativement, méchamment. Et Jude reprend ces personnes et il dit que même les anges puissants ne prononcent pas des jugements comme cela. Il dit que quand l'ange disputait le corps de Moïse à Satan, eh bien, il a dit que l'Éternel te réprime. Bon, ce n'est pas quelque chose qui se trouve dans la Bible, hein, mais c'est quelque chose qu'il a trouvé ailleurs. Et qui est vrai. Hein, c'était un fait juste. Donc, il a dit que Satan te réprime. Donc, il n'agresse pas Satan, il n'en parle pas n'importe comment, à tort et à travers, il ne l'insulte pas, il ne le dit pas de choses négatives sur lui, il dit la vérité. Il dit ce qui est juste. Et d'autres, eh bien, en parlent en le diminuant. C'est comme s'il n'existait pas, comme si, il était absolument sans aucun intérêt de parler de lui. Bien qu'il soit sans intérêt, bien que Satan ne mérite pas que l'on fasse de grands discours sur lui, néanmoins, il faut savoir qu'il existe et qu'il a une action constante. Il ne s'arrête jamais. Il ne dort pas. Il ne prend pas de vacances. Et si vous prenez des vacances, eh bien croyez qu'il vous suit en vacances. Bon, vous êtes là, vous n'avez pas pris de vacances. Mais pour ceux qui sont partis en vacances, eh bien, il les a suivis. Bon, Satan n'est pas omniprésent, hein. C'est quand je dis Satan, je pense parle de toutes ces êtres angéliques déchus qui sont derrière nous et qui nous empêchent et qui créent des problèmes et qui agissent contre Dieu et qui contre nous et qui veulent notre découragement, notre ruine, qui mettent parfois de mauvaises pensées. Il y a des chrétiens qui me disent « J'ai des mauvaises pensées ». Oui, vous avez des mauvaises pensées, bien sûr. C'est Satan, il met aussi des mauvaises pensées, il vous suggère, il essaye de vous influencer, mais nous nous combattons par la foi et nous nous reposons sur la parole de Dieu et nous croyons à ce que Dieu dit dans sa parole. Nous appuyons sur lui et nous disons, Dieu a vraiment dit ce qu'il a dit. Pas simplement, c'est même si Satan vient essayer de nous troubler, eh bien on se repose sur Dieu qui est tout-puissant et qui met en fuite l'ennemi. Donc, il ne s'agit pas de le diminuer ou de le discriminer, mais il s'agit de savoir exactement ce qu'il est et ce qu'il fait. Et Paul pouvait dire aux Corinthiens, nous n'ignorons pas ses desseins. On n'ignore pas ses desseins. Et il dit même qu'il se déguise en ange de lumière pour tromper les élus. Donc, il est capable de mentir. De se faire passer pour. Et vous savez, bien des mouvements à tendance spirituelle, c'est dans les milieux chrétiens, eh bien, sont à la merci de ces esprits. Et je me rappelle d'une lettre qu'une dame avait écrite et elle disait, si vous cherchez l'expérience, des expériences spirituelles, Satan peut vous en donner. Et vous pouvez avoir des expériences spirituelles. Et il y a des chrétiens qui en ont eu. malheureusement, et des mauvaises expériences. Et qui en sont revenus, et qui plus tard on peut dire oui, mais moi j'ai été dans ces mouvements-là, et je sais de quoi il s'agit. Malheureusement, c'est comme cela. Après, moi je ne veux pas discriminer plus que ça. Il y a de chers frères et sœurs en Christ dans ces mouvements, et je rends grâce à Dieu qu'il soit là, et qu'il puisse voir clair, et qu'il puisse se sortir du piège dans lequel ils sont, c'est qu'ils voient plus clair. Mais je vais juste dire une petite chose. Normalement, ce paragraphe est très long et il y a beaucoup de versets. Mais on va le faire, je ne sais pas, mercredi prochain si c'est possible. Mais donc, l'ennemi, notre ennemi, Satan, est une créature de Dieu. Ce n'est pas une émanation de quelque chose qui est venu et qui est maléfique. C'est au départ, Satan est une créature de Dieu. C'est même le plus grand de tous les anges. Il s'appelait Lucifer, c'est-à-dire celui qui porte la lumière. C'est en grec, c'est le porteur de lumière. Il était le plus puissant, il était le plus intelligent. Il était celui qui avait c'était le plus grand. Au-dessus de tous les anges, il y avait cet archange. Et même plus. Bon, quoi qu'arché, en grec, c'est grand. Donc, il était le plus grand. Disons, c'est le premier. Donc, il était le premier de tous les anges. Mais un jour, il est tombé. Il a péché. Le péché, l'origine du péché, est en Satan. Ce n'est pas Dieu qui a créé le péché. Il y a certains mouvements chrétiens qui laissent entendre, et même j'ai lu clairement, c'est dit textuellement, que Dieu a créé le péché et que Dieu a voulu que le péché existe dans le monde. Voilà. Mais c'est un blasphème. Pour moi, ce sont des blasphèmes. Dieu ne pense pas le mal, n'imagine pas le mal. Ne soupçonne pas le mal. S'il nous dit de ne pas soupçonner le mal, c'est que lui-même ne le soupçonne pas. Il a toujours des intentions de bien. C'est quand Dieu a créé cet ange, il a créé avec une intention de bien. Et il a voulu que ce soit l'ange le plus puissant et qu'il ait autorité sur toute sa création. Les choses lui sont montées à la tête, qu'on pourrait dire. Hein. C'est lui qui a. Il s'est enorgueilli. Il a voulu mettre son trône au-dessus du trône de Dieu. Et il s'est dit, pourquoi est-ce que je ne serai pas plus grand? Pourquoi? Donc, 1 Jean 3, verset 8. Alors, oui. 1 Jean 3, 8. Évidemment, si je cherche dans Jean, j'aurais aimé que les personnes lisent, mais avec les micros, c'est pas possible. 1 Jean 3, 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut pour détruire les œuvres du diable. Le péché, c'est le diable dès le commencement. Dès le début, c'est lui. Il est à l'origine du péché. Donc, ne cherchez pas l'origine ailleurs que dans cet être. Si vous entendez des personnes émettre un avis différent, ce verset est clair. C'est dès l'origine, le péché est en Satan. C'est lui qui l'a créé en lui-même. C'est lui qui, en voulant être au-dessus de Dieu, s'est séparé de Dieu. Il est devenu l'ennemi de Dieu. En voulant être au-dessus de Dieu, il était l'ennemi de Dieu. Il était en conflit avec Dieu. Donc, à partir du moment où il était en conflit avec Dieu, eh bien, il était dans une situation de péché. Parce que celui qui est contre Dieu est dans le péché. Obligatoirement. C'est le péché dans sa définition. C'est un acte de rébellion contre Dieu. C'est un acte par lequel nous disons à Dieu, ne domine pas sur moi. Je veux faire ma volonté. Je veux suivre mes pensées. Et Satan, c'est exactement ce qu'il a fait. Il a voulu être au-dessus de Dieu, donc il a dit, Dieu ne domine pas sur moi. Je contrôle tout et je veux tout contrôler. Donc, il est le péché, l'origine du péché est dans cette action-là, d'avoir voulu mettre son trône au-dessus de Dieu. Il est devenu l'ennemi de Dieu. Instantanément, dès qu'il a eu cette pensée, il est devenu l'ennemi de Dieu. Il était en conflit avec Dieu et il est tombé. C'est donc un ange déchu. Mais dans sa chute, il a entraîné d'autres anges qui étaient moins puissants que lui. Et dans l'Apocalypse, il est dit qu'il y avait un grand dragon, c'est le diable, et il entraînait avec sa queue un tiers des étoiles. Alors, on pense qu'il a entraîné un tiers des anges, des anges création de Dieu. Dieu les avait créés. Donc, un tiers des anges est devenu ont été déchus, se sont détournés de Dieu, et ce sont les démons. Les démons, ce n'est pas une création de Satan. Satan ne crée rien. Il est incapable de créer. C'est Dieu qui a tout créé. Donc, quand il a détourné ce tiers des anges, ils sont devenus ses envoyés. Alors, je ne connais pas le nombre d'anges que Dieu a créés, mais j'imagine qu'ils sont très très nombreux, et même, je pense, des milliards. Mais un tiers, c'est beaucoup. C'est si bien que presque derrière chaque être humain, il peut y avoir un démon à l'œuvre, qui agit, qui influence, qui essaye de détourner. Et même parfois, il y en a plus d'un. Et certains sont même habités par des légions de démons. Vous connaissez cet homme que le Seigneur Jésus a chassé, une légion. Et une légion, c'est 6 000. Donc ça représente beaucoup. Donc c'est un ange qui est déchu. Donc on va s'arrêter ici, parce que ça va faire plus tard. Mais je ne sais pas, Emmanuel, si ce qu'il voudra faire, si mercredi prochain voudra que je continue. Mais en tout cas, on reprendra qu'il est un ange déchu, et je vous montrerai là où il a été déchu et comment. Voilà.